Interview.
2 jours.
Auditeur, auditrice de RDIWA, bonjour. Au cours de la semaine passée, du 6 au 10 décembre, l'association Désert Numérique a prolongé un cycle d'ateliers d'éducation aux médias et à l'information avec le projet La Radio des Ulysses, adressé à 10 élèves bénéficiant du dispositif qu'on nomme Ulysses au collège du DIWA. Et cela en partenariat avec Radio Saint-Féréol et aujourd'hui RDIWA. Alors bon, on va en dire un peu plus tout à l'heure, mais sachez, auditeurs, auditrices, que une classe Ulysse, c'est une unité localisée d'inclusion scolaire qui permet à des jeunes au profil spécifique souffrant de divers handicaps, de troubles de l'apprentissage ou de l'attention, afin qu'ils soient scolarisés dans des classes du collège. Voilà. Et à notre micro aujourd'hui, je reçois Karen Desmineur. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors vous êtes en charge de l'animation et de la coordination des actions d'éducation artistique et culturelle proposées donc par l'association Désert Numérique au public jeune et spécifique dans le cadre scolaire.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Depuis 10 ans, nous organisons des ateliers d'éducation artistique et culturelle. Alors, en milieu scolaire, en temps scolaire aussi, avec des écoles primaires, en général de petits villages un peu isolés, comme Saint-Nazaire-le-Désert, d'où est originaire d'ailleurs l'association Désert Numérique. Avec, donc, c'est vraiment avec l'école de Saint-Nazaire-le-Désert que nous avons commencé cette série d'ateliers il y a maintenant 10 ans. Et puis, avec d'autres écoles primaires, comme à Cobonne, et puis l'année prochaine à Aurel, dans la vallée de Quin aussi, et puis à Manglon. Et depuis 2 ans, avec le collège de Cré Armorin et le collège du DIWA à Die.
Bon, alors, vous parlez de l'association Désert Numérique. Peut-être qu'on pourrait rappeler un petit peu aux auditeurs, auditrices de RDIWA, qui est cette association, quel est un peu son objet et que recherchez-vous?
Alors, l'idée, c'est effectivement de proposer des temps de création. Ça a pu être aussi un festival d'art numérique pendant 5 ans à Saint-Nazaire-le-Désert, qui rassemblait une centaine d'artistes pendant 3-4 jours et qui présentait aussi les résultats d'un atelier qui était réalisé avec un ou plusieurs artistes et les écoles de la classe unique de Saint-Nazaire. Et le résultat de la restitution en fait, de cet atelier-là était le point de départ de ce festival. Qui ensuite présentait une série, alors là aussi d'ateliers, puis de performances, de concerts, d'expériences en tout genre autour du numérique, du son, de l'image, à un public venu exprès au festival.
Donc, c'est avec des élèves, avec des jeunes garçons et filles que vous avez expérimenté quelque chose et qui a donné naissance à toute une suite et même à un festival. Et aujourd'hui, à encore 2 nouvelles animations, désormais dans le collège du DIWA et aussi celui, bien sûr, de Cré. Alors, ce projet-là de création sonore. Voilà, il est venu comment? Qu'est-ce que vous êtes venu apporter et peut-être même trouver dans ce collège avec ces enfants qui présentent des singularités dans leur parcours scolaire?
Tout à fait. L'intérêt, déjà pour nous, d'effectivement, intervenir auprès des jeunes publics de manière aussi à... Donc, c'est vraiment de l'éducation aux médias, à l'information, qui permet effectivement d'approcher différents médias et de sensibiliser les enfants les plus jeunes comme les plus âgés d'ailleurs, à ce que sont les médias et à tout ce qu'on connaît voilà, autour de cette question-là qui est vraiment assez primordiale, en tout cas à laquelle on tient beaucoup. Les élèves Ulysse est un public très intéressant parce que, d'une part, ils n'ont pas forcément énormément de projets dédiés, artistiques dédiés, et ils sont super créatifs, parfois un peu timides au départ, et en fait se montrent hyper créatifs. Et donc là, c'est un peu le deuxième volet en fait qu'on organise au Collège du Diwa, sachant que le premier volet se passait avec le dispositif Ulysse du Collège Armorin à Cré,
oui,
avec aussi une dizaine d'élèves. Et on a été très très surpris nous-mêmes de voir à quel point le projet avait plu et leur avait permis aussi de gagner en confiance en soi, ce qui est un point essentiel.
Et oui, et donc dans ce collège, vous avez réalisé au cours de cette semaine un documentaire de création sonore qui s'appelle Cocorico.
Oui.
Et je vous propose qu'on écoute le tout début de cette réalisation.
Coco, 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 coco.
Quoi?
Cocorico.
Oui.
Oh.
La radio des Ulysse présente l'émission Cocorico avec Radio Saint-Ferriol et Désert Numérique avec Brandon,
Léa, Lindsay,
Léo,
Laurence,
Quentin,
Stan,
Melinda.
Cocorico!
Le projet s'est déroulé cette semaine du 22 au 26 mars à la cité scolaire Armorin.
La radio Saint-Ferriol et l'association Désert Numérique sont venus animer des ateliers radio avec le dispositif Ulysse sur le thème des animaux et le plus précisément des poules. C'est parti pour l'émission Cocorico!
Voilà un petit extrait de Cocorico, une émission réalisée avec la classe Ulysse du collège Armorin à Cré. Donc l'année dernière, vous le disiez, Karen, des mineurs de l'association Désert Numérique. Alors donc ça, c'est l'occasion avec des jeunes garçons et filles de s'initier à la fois, donc vous le disiez, aux médias, de ce que c'est que le média et ce que sont les médias et de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces différents médias et la radio. Donc la radio, là vous avez mené un petit documentaire de création sonore. C'était quoi un peu le cœur de ce documentaire?
Alors l'idée effectivement, c'est de permettre aux élèves de manipuler, enfin d'apprendre à manipuler et de s'approprier les outils qu'on met à leur disposition, sachant que les élèves vont réaliser l'émission de A à Z. Évidemment, on les accompagne, mais ils sont très rapidement super autonomes avec les outils. Et là, l'idée, c'était de profiter aussi de... cette semaine-là, c'était en mars 2021, et l'idée, c'était de profiter de l'occasion de l'installation d'un poulailler au sein du collège. Et très rapidement, le sujet a été trouvé, en fait, par les élèves, de faire toute une émission autour de... Voilà, donc là aussi, ils sont initiés aux différents formats radiophoniques. L'interview, le reportage, la prise de son, le bruitage, le générique, le jingle, etc. Donc, l'atelier était mené par Héloïse Plantroux, qui travaille à Radio Saint-Ferriol et qui les a initiés à toutes ces formes. Ce qu'on nous avons fait également la semaine dernière au Collège du Diwa, pour le coup, et cette fois-ci avec un autre intervenant, toujours de la Radio Saint-Ferriol, qui s'appelle Franz Vellier.
Voilà. Et alors, dans ce, je reviens un peu à ce petit documentaire parce que ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que ces enfants vont avec un micro à la rencontre de celles et ceux qui menaient ce projet-là de poulailler dans le collège. Donc c'est un moyen d'aller à la rencontre des autres et de faire entendre quelque chose. Donc ça, la rencontre.
C'est un des objectifs aussi, c'est justement autant ces enfants sont en inclusion dans le collège, autant ils peuvent finalement rester entre eux, en fait. Et là, c'était aussi l'occasion d'aller vers l'autre et de justement d'aller interviewer, de dépasser aussi sa timidité d'aller vers l'autre pour... Alors, on a eu effectivement des interviews, puis des petits micro-trottoirs qui étaient assez drôles sur la question de l'œuf et de la poule. Enfin, l'émission est toujours à écouter sur le site de Désert Numérique si effectivement ça vous intéresse d'avoir la suite de ce qu'on a entendu tout à l'heure.
Et oui, et puis on le mettra aussi sur la page de RDWA. Alors, je voudrais vous faire entendre un deuxième petit extrait de cette émission Cocorico. On en parle tout de suite après, si vous le voulez bien.
Voici quelques expressions courantes sur les poules.
Et leur signification.
Roule ma poule.
On y va.
Quand les poules auront des dents.
Jamais.
Avoir la chair de poule.
Avoir froid.
Poule mouillée.
Lâche ou peureux.
Nid de poule.
Trou dans la rue.
Papa poule, mère poule.
Papa ou mère attentionné.
Cage à poules.
Petit espace.
Se coucher avec les poules.
Voilà un deuxième petit extrait de cette émission Cocorico réalisée au collège Armorin à Cré par RSF et le Désert Numérique. Alors Karen Desmineurs, donc une petite création comme celle-là, mine de rien, j'allais dire. Il y a encore plein d'autres choses dont on pourrait parler. Il y a une chose qui me paraît aussi importante, c'est la création sonore, donc la création artistique. Mm-hmm. J'imagine que bien sûr dans votre association, ben c'est bien ça qui a au cœur l'expression artistique, l'expression poétique. De chacun de
tout
soi,
à fait, tout à
de
fait,
chacun de nous, pardon.
L'objectif, effectivement, à chaque atelier que nous mettons en place, nous invitons un ou plusieurs artistes à intervenir et à mener les ateliers, c'est-à-dire à proposer, à partir de sa propre technique, de son univers artistique, à proposer aux enfants de partager un projet qu'on va écrire ensemble, évidemment, et qui de toute façon est voilà et imaginé à plusieurs et donc effectivement mené par un ou plusieurs artistes qui va justement initier les enfants à leur technique.
Oui, et c'est aussi
la semaine dernière.
Voilà, et c'est aussi l'occasion de jouer avec les mots, de lire, d'écrire, tout ça. Lire quelque chose à un micro, c'est pas rien.
Non, tout à fait. Et donc effectivement, c'est tout un travail de. Je le répète, parce que la question de la confiance est super importante. Et c'est vrai que. On tient beaucoup à nos formats sur le temps, en fait. Lorsqu'on intervient en milieu scolaire, ce sont en général des ateliers qui durent toute la semaine. Là, on a la chance au collège de pouvoir intervenir aussi dans le cadre du dispositif qui peut ressembler en tout cas à une classe, comme c'était le cas en primaire, mais qui permet effectivement d'avoir les élèves toute la semaine avec nous. Et donc cette confiance se met en place avec le temps, et puis eux-mêmes apprennent eh bien, à s'approprier les outils et puis apprivoiser leur voix, ce qui n'est pas évident. C'est jamais évident d'écouter, d'entendre sa propre voix et d'être à l'aise face à un micro.
Oui, et d'entendre aussi, j'imagine aussi, tous les progrès que ces enfants peuvent faire. Et forcément, c'est aussi de cette manière qu'ils peuvent se remettre petit à petit en confiance vis-à-vis d'eux-mêmes. Ouais.
Et il y a un autre point important, c'est qu'on tient toujours aussi à présenter au public le résultat de l'atelier chaque fin de semaine d'atelier. C'est-à-dire de mettre en scène aussi les élèves face à leur public. Donc évidemment, par exemple, d'imaginer une séance d'écoute lorsqu'on réalise une émission de radio, et puis de présenter, donc les élèves vont faire ce travail-là, de présenter eux-mêmes au public la manière dont ils ont travaillé avec nous pendant la semaine. En présentant les outils qui ont été utilisés. Et en fait, rapidement, on réalise qu'ils sont complètement autonomes. Ils ont bien compris ce qu'ils ont fait et du coup, sont capables de ils deviennent des apprenants, en fait. Ils changent de posture. Ça, c'est super intéressant de les voir. Alors là, pour le coup, plus du tout timide, et puis raconter aux adultes ce qu'ils ont fabriqué tous ensemble pendant la semaine.
Voilà. Et alors, Adi, donc vous avez travaillé sur un projet un peu différent, j'imagine.
Oui.
Comment ça s'est passé? Alors, en début de semaine dernière, là, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, sont intervenus là, pour le coup, deux artistes. D'une part, Franz Vellier, qui, donc, comme je le disais, travaille à Radio Saint-Ferréol, qui a l'habitude des ateliers, des jeunes publics, et donc qui travaille à la radio, et qui a vraiment initié les élèves à la radio, en présentant les différents outils, et puis en proposant un certain nombre d'activités, et des petits exercices, notamment de brise-glace dès le matin, qui permettait à tout le monde de se présenter, de discuter aussi de ce qu'ils avaient. En fait, chaque émission est vraiment réalisée de A à Z par les élèves. C'est-à-dire que c'est eux qui vont décider des contenus et même du thème qui va être traité pendant l'émission.
Alors, du coup, bon, ben, il faut se mettre aussi autour d'une table, réfléchir, écrire le déroulé d'un scénario, quoi, hein, le déroulé d'une émission. Tout ça s'est mené à la fois de manière ludique, poétique, technique. Tout ça fait un grand tout avec lequel vous expérimentez.
Oui. L'idée, c'est effectivement de les embarquer dans un univers et voilà, en fait, ils deviennent des reporters et des journalistes. Et donc, c'est toujours chouette de les voir effectivement endosser ce rôle-là. Et alors, certains sont beaucoup plus à l'aise avec la technique et vont vraiment avoir envie d'être à la régie, au son, à la technique, et d'autres vont être plus à l'aise avec le texte ou avec leur voix et vont mener des interviews. En fait, ils vont tous se répartir un peu les tâches. On travaille aussi, alors, soit en petits groupes lorsqu'ils partent, par exemple, en mission reportage ou interview ou micro-trottoir. Et puis, on travaille aussi en grands groupes. Ils vont aussi beaucoup discuter et puis voter pour sélectionner des idées ou choisir par exemple le titre de l'émission ou le sujet qui est traité au tout début de la semaine, par exemple.
Voilà, alors, quel est le sujet un peu que vous avez exploré durant cette semaine?
Alors, effectivement, on va l'écouter. De toute façon, je ne vais pas en dire trop, mais l'idée, c'était de les faire réfléchir sur ce qui les entoure, sur leur quotidien, sur ce qui est spécifique à leur collège, Donc, de pas forcément les embarquer très loin à l'extérieur, mais de se concentrer sur ce qui se passe autour d'eux. Et avec la possibilité, comme on l'a dit tout à l'heure, d'aller vers l'autre et donc de pouvoir aussi interviewer assez facilement des enseignants ou des gens qui sont autour d'eux. Et donc, plusieurs sujets sont sortis de ce brainstorming de début de semaine, comme par exemple l'option cirque, qui est une option du collège, de ce collège-là spécifiquement. Et puis l'option aussi JSP, c'est-à-dire jeune sapeur-pompier, qui est finalement donc le sujet qui a été retenu. Il y avait aussi, par exemple, le sujet des Ulysses, en général, qui aurait pu être pris, choisi par eux. Enfin bon, ils ont voté. Ils ont voté et donc on a pu dégager un des sujets.
Ouais.
Je parlais de deux artistes qui interviennent pendant la semaine. Parce qu'il y a aussi le travail en parallèle au travail de création radiophonique. Il y a tout un travail de création vidéo avec l'artiste Sarah Brown qui intervient déjà depuis un certain nombre d'années avec nous, avec des aires numériques auprès des jeunes publics et qui permet là aussi d'aborder alors un autre média qui est donc la vidéo. Avec les élèves, puisque c'est un travail qui permet d'une part de les initier à ce média, de les faire manipuler une caméra, de s'interviewer les uns les autres devant la caméra pour expliquer ce qui se passe en même temps pendant l'atelier de radio. Et là aussi, donc, ils manipulent les outils et ils découvrent aussi ce que c'est que la vidéo, le montage, etc.
Donc, les mêmes élèves sont à ces deux places un peu tout à fait différentes. Il y a ceux qui créent l'émission radio et ceux qui filment tout ce travail, toute cette réalisation.
Tous vont effectivement passer d'un rôle à l'autre, d'un poste à l'autre. Ils vont vraiment tous toucher un peu à tous les outils. Et par exemple, imaginons un petit groupe de deux ou trois qui a fini l'interview qu'il devait réaliser. Sarah va va les extraire en fait de la classe par exemple et va leur poser quelques questions au sujet de ce qu'ils viennent de réaliser tout de suite et donc les élèves vont répondre à ces questions ou se répondre les uns les autres devant la caméra pour expliquer vraiment à tout le monde ce qui se passe pendant l'atelier. C'est ça l'intérêt aussi de ce travail en vidéo.
Oui, donc prendre du recul sur ce qui est en train d'être fait pour pouvoir le penser un peu autrement, quoi, et en dire quelque chose.
Oui, ouais. tout en réutilisant des vocabulaires très spécifiques qu'ils viennent d'apprendre et qu'ils vont manier toute la semaine, en fait. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi qu'ils s'approprient tout un vocabulaire spécifique à la radio, en l'occurrence, et avec lequel ils sont très, très à l'aise. On voit bien l'évolution au cours de la semaine. Entre le lundi matin et le vendredi après-midi, on voit bien la différence et on voit bien que c'est acquis qu'elle est d'une certaine manière. Et c'est super intéressant, en fait, de travailler sur le temps.
Est-ce que vous êtes accompagné d'éducateurs ou d'aide à la vie scolaire ?
Alors, c'est un point très important, c'est qu'on travaille vraiment avec les enseignants, notamment l'enseignante qui s'occupe du dispositif Ulysse, ici Agnès Labouré, qui est secondée par une AESH qui s'appelle Mathilde Lenné et qui, elles, vont non seulement accompagner leurs élèves tout au long de l'atelier, mais qui préparent aussi en amont les élèves au sujet. C'est-à-dire qu'ils vont, elles vont en l'occurrence préparer les élèves à la radio et déjà commencer à les questionner sur ce qu'ils connaissent du média radio, à les sensibiliser au sujet qui est abordé en atelier. Donc il y a vraiment un travail plusieurs mois en amont qui se construit avec des aires numériques en aller-retour qui permet effectivement d'aborder l'objet principal avec tranquillité le lundi matin.
Donc oui, c'est quand même un projet qui est
un projet d'équipe,
voilà. Et ça, c'est important.
Tout à fait. Ça, c'est vraiment un point important, c'est qu'on est très soudés et on est on s'entraide les uns les autres. Enfin, on est assez polyvalent, même si on va avoir Sarah vraiment dédiée à la vidéo et là France à la radio. On est tous, on suit ce qui se passe et on accompagne les enfants.
Oui, et j'imagine que c'est aussi ce que vous transmettez, c'est-à-dire comment s'adapter, comment faire équipe, comment être à des places différentes et que chacun puisse trouver sa place.
Voilà, alors surtout avec les élèves ULIF, c'est un point très important, c'est effectivement que chacun trouve sa place et ait sa place naturellement. Si un élève est très timide et n'a pas du tout envie d'intervenir pendant la restitution, par exemple, n'a pas envie d'être mis en avant, il aura un rôle de toute façon plus discret, mais il aura son rôle à lui. Et pendant la semaine, c'est le cas. Mais bon, là, en l'occurrence... tout le monde est très très à l'aise avec la technique, les outils, autant que le sujet. Et donc, on est même agréablement surpris de la manière dont s'est déroulée la semaine d'une façon très fluide, et ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Mais là, on avait des élèves très volontaires et très intéressés par le sujet. Donc ça, c'est vraiment chouette.
Ouais.
C'est un vrai travail d'équipe.
Ouais. C'est de l'enthousiasme, c'est de la joie, c'est de l'équipe. Et du coup, c'est aussi peut-être que comme ça qu'au sortir de l'école, dans la société et ailleurs encore, on peut peut-être trouver sa place.
Tout à fait. C'est vrai que depuis le temps qu'on fait ces ateliers, on a déjà vu des petites étincelles dans les yeux des enfants et quelque part, alors c'est difficile de dire, il fera un métier proche de ce qu'on a vu, mais il y a quelque chose qui se crée là en fait, qui se passe. Et ça, cette petite étincelle, elle est vraiment très agréable à observer et c'est chouette de aussi... on travaille beaucoup avec des écoles de milieux ruraux, de milieux isolés, en montagne, de zones où la culture n'est pas forcément facilement accessible. Et du coup, c'est intéressant de voir que, en tout cas, d'avoir voilà, ce rôle-là de leur apporter la culture, l'art et puis de sentir ces étincelles-là dans leurs yeux, et ça c'est fabuleux.
Et oui, et la rencontre, encore une fois, on va sans doute encore le redire, que vous proposez de faire, forcément permet de tellement de choses.
Oui, tout à fait. Voilà, la rencontre, c'est au cœur de tout ce travail-là. Et puis aussi, c'est vrai pour nous aussi, la rencontre avec les enseignants est importante parce que c'est une vraie volonté commune depuis le départ, en fait, depuis la première institutrice avec laquelle nous avons travaillé à Saint-Nazaire-le-Désert jusqu'à aujourd'hui. C'est avant tout un désir commun de travailler et du coup c'est vraiment dans le plaisir et voilà c'est
de travailler et de dépasser des handicaps.
Oui, tout à fait. Bah là on n'est plus du tout dans ce rapport là. On est tous différents et on a tous quelque chose d'original à apporter et là encore on a tous notre place dans ces projets-là, c'est le principe aussi.
Et oui, et dans ce que vous dites, bien sûr, ça parle très fort de notre société, de ce qu'on tente et ce qu'on voudrait, bien sûr, voir se développer en termes de solidarité, d'égalité, de fraternité, évidemment. Et tout à l'heure, vous avez évoqué toute l'importance de faire de ce que vous appelez de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, ça encore, c'est aussi une action... citoyenne que vous menez.
Et oui, mais c'est important, c'est très important à mon sens d'avoir cette approche et puis pédagogique, par le ludique, par l'artistique, par la poésie, comme vous disiez tout à l'heure, de choses de la société, en fait, du quotidien. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Ouais, tout à fait.
Voilà. Ben, on va avoir plaisir à écouter dans un instant le petit documentaire que vous avez réalisé au collège de Die, au petit documentaire de création sonore. Mais il est peut-être important aussi de citer un peu les autres partenaires de cette action, de cette série d'ateliers que vous menez.
Alors effectivement, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir les deux radios FM locales sur les deux villes de Cré et de Die avec nous, donc RDOA et puis Radio Saint-Ferréol, une autre radio pinode.org qui est une radio aussi avec laquelle on travaille beaucoup par ailleurs sur Internet, et puis évidemment les partenaires financiers sans qui tous ces projets ne pourraient pas avoir lieu. Que je profite, d'ailleurs j'en profite pour les remercier chaleureusement, parce que sont un réel soutien. Alors sur ce projet-ci, nous avons la Fondation de France, qui nous soutient depuis plusieurs années, avec qui on travaille bien. La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous soutient aussi à chaque atelier, et en l'occurrence le Collège du Diois, qui participe aussi financièrement à la réalisation de ce projet.
Toutes ces institutions ont entendu à quel point c'était important de toujours permettre l'intégration, la découverte, la culture, l'expression.
Tout à fait. C'est aussi le cœur de leur métier. C'est aussi pour ça qu'on travaille aussi bien avec eux. C'est important de... d'avoir aussi des objectifs communs et là
c'est possible,
c'est ça, c'est...
et du coup ça c'est plutôt encourageant, j'imagine, vous qui travaillez depuis pas mal d'années là avec l'association des aires numériques, vous voyez bien que ça évolue dans le bon sens plutôt.
J'espère au niveau du financement, je sais que c'est une vraie question. En tout cas, nos partenaires nous aident tant qu'ils peuvent. C'est un atout. Enfin, c'est vraiment. On est accompagné aussi. C'est-à-dire que là aussi, c'est un travail d'équipe, j'ai envie de dire. En tout cas, avec la Fondation de France, c'est un vrai travail de suivi permanent tout au long de l'année, pas seulement au moment des demandes de subventions. Avec la DRAC aussi, nous sommes proches des services culturels depuis de nombreuses années, avec d'ailleurs le département de la Drôme aussi, lorsqu'ils nous aident, je sais qu'on a un suivi constant, en fait. Et ça, c'est des liens importants.
Des partenaires importants.
Oui, tout à fait.
Voilà. Eh bien, merci, Karen des mineurs de l'association des numériques. On se reverra très certainement dans les semaines qui viennent, et on continuera bien sûr à faire entendre ce que vous allez avec les enfants de ces classes Ulysse que l'on trouve autour dans le Diois. On fera entendre tout ça bien sûr à l'antenne de RDIois.
Oui, on a d'autres projets.
Et on en reparlera.
Voilà.
Bon, ben merci.
Merci à vous.
Ouais.
À bientôt.
À bientôt. Et on écoute maintenant tout le travail de cette classe Ulysse du collège de Die.
JSP.
Je sais pas.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Je sais pas.
JSP, je sais pas.
JSP, c'est-à-dire quoi?
Jeudi, samedi.
Je ne sens peur.
Je suis pompière.
JSP, je ne sens peur, pompier.
La radio des Ulysses.
La radio des Ulysses.
Présente.
Jamais sans pompier.
une émission sur la section jeunes sapeurs-pompiers de la cité scolaire du Diwa.
Réalisée par
Ilaïda,
Teddy,
Wassim,
Camélia,
Mélina,
Nicolas,
Clara,
Rémi.
Tout d'abord, nous vous proposons d'écouter Monsieur Ebel, proviseur.
Camélia, Wassim et Mélina sont allés l'interviewer dans son bureau.
Bonjour, nous allons vous poser quelques questions sur l'option jeunes sapeurs-pompiers. Voulez-vous bien y répondre ?
Oui, bien sûr.
Depuis quand l'option JSP, jeunes sapeurs-pompiers, existe ?
Elle existe depuis 3 ans. C'est une cohorte qui est là depuis 3 années, donc depuis 2019.
Pourquoi cette option a-t-elle été créée ?
Elle a été créée parce qu'il y avait une volonté de l'établissement de montrer qu'il y avait un engagement citoyen dans l'établissement, que les élèves s'engageaient, dans notamment la protection civile. Et on voulait marquer cet engagement par la création d'une école de sapeurs-pompiers. Voilà. Et quand on a réfléchi à tout ça, on a réfléchi avec des gens comme le directeur académique de l'éducation nationale, donc sur la Drôme. On a réfléchi avec le contrôleur général des pompiers, avec le sous-préfet aussi à l'époque, et le capitaine de la caserne de pompiers, le capitaine Ferréol. Et en fait, tous ces gens étaient d'accord pour dire qu'effectivement, ce serait intéressant de créer cette collaboration entre les pompiers donc, du Diwa et donc, l'établissement pour créer effectivement cette école de jeunes sapeurs-pompiers.
Est-ce que c'est important que cette option existe et pourquoi ?
Ben, je pense que c'est très important parce que la preuve, c'est qu'on a déjà beaucoup de demandes. Chaque année, on ne peut pas répondre à toutes les demandes parce qu'en fait, on recrute que tous les 3 ans. On n'a pas assez de moyens pour recruter chaque année. Mais on a des élèves qui regrettent de ne pas faire partie effectivement de cette école de jeunes sapeurs-pompiers. Donc ça veut dire que ça a de l'intérêt parce qu'ils voient à l'extérieur donc, les jeunes sapeurs-pompiers pratiquer ici, quand il y a les camions de pompiers qui viennent sur place, quand ils font des manœuvres sur place. Et donc ça les intéresse parce qu'ils voient que c'est des actes qui peuvent aider les citoyens dans leur vie quotidienne. On peut aider des gens qui ont des accidents, qui sont souffrants, qui sont malades. On peut aider, là on l'a vu récemment aussi, dans le Diwa, il y a eu un incendie important à Die. Donc on voit bien l'importance des pompiers. Donc il y a beaucoup de jeunes qui se disent que ouais, ils pourraient tout à fait aider à la communauté à réagir sur des situations un peu graves. Et donc qui nécessite la présence des pompiers. Voilà.
Est-ce que cette option va continuer ?
Alors c'était la question qui nous a été posée donc, récemment, puisqu'on vient de finir la cohorte, c'est-à-dire les 3 ans, puisque ça dure 3 ans. Ça a duré de la 4e, la 3e et puis jusqu'à la 2e. Et s'est posé la question de continuer. Alors bien évidemment, on s'est mis autour d'une table et tout le monde a été unanime pour dire que c'était extrêmement intéressant et qu'on avait vraiment la volonté de continuer. Oui, ça va continuer.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.
Je vous remercie aussi. Au revoir.
Au revoir. Pour Wassim, les pompiers évoquent un souvenir très particulier. Il le raconte au micro de Mélina.
Nous accueillons Wassim, élève de 6e au collège du Diwa. Bonjour Wassim.
Bonjour.
Aujourd'hui, tu vas nous parler d'une expérience que tu as vécue en lien avec les pompiers.
Oui, j'ai eu la chance de monter dans un canadair des pompiers.
Avant de nous raconter, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un canadair ?
Oui, bien sûr. Un canadair, c'est un avion qui transporte de l'eau pour les grands feux.
Où et quand es-tu monté dans un avion ?
C'était au Maroc, à Rabat, la capitale, il y a 5 ans, pendant l'été.
À quelle occasion as-tu pu monter dedans ?
Il y avait un entraînement de pompiers et ce jour-là, il y avait des tours gratuits. Nous avons fait un tour, l'avion a décollé, il a pris de l'eau dans le lac et ensuite l'a répandu sur la zone d'entraînement.
Est-ce que tu peux nous dire comment c'est à l'intérieur ?
C'est assez grand, il y a des sièges de rangées de 3 dans la salle de pilotage. Il y a beaucoup de boutons et sous l'avion, il y a un grand réservoir d'eau.
Est-ce que cette expérience t'a plu ?
Ah ben oui, c'est un très bon souvenir que je ne pourrai jamais oublier. J'y pense à chaque fois que je vois des pompiers.
Merci beaucoup Wassim de nous avoir raconté et partagé ce bon moment.
De rien, de rien.
Merci Wassim d'avoir partagé ce souvenir.
Quelle image ont les pompiers pour vous ?
C'est ce qu'ont voulu savoir Nicolas, Rémi, Ilaïda, Teddy.
On écoute leur micro-trottoir.
Si je vous dis pompier, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit ?
Sauvetage.
Secours.
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 Camion.
Feu.
Eau.
Feu. Mm-hmm. Secours. Mm-hmm. Aide. Mm-hmm. Solidarité.
Héros.
Héros.
Incendie.
Caserne.
Ces gens qui sauvent des vies et interviennent quand il y a du danger.
C'est ceux qui vont dans les flammes pour sauver les gens.
Les secours et le don de soi.
Alors, les pompiers, ça me fait penser à des gens qui donnent leur vie pour sauver celle des autres.
Pompiers, ça te fait penser à quoi ?
À feu.
Feu, courage, force et détermination.
Merci.
Fierté.
Alors, pompier, ça me fait penser à la générosité et sauver les gens qu'on peut.
Incendie, feu, secours, rapide.
Je sais qu'en tout cas, l'option pompier ici, elle me donne envie. Je trouve ça trop chouette de voir ça. Et je me demande un peu qu'est-ce que vous apprenez, mais...
Ils sauvent des vies. Et moi, je suis justement dans la section jeunes sapeurs-pompiers.
Ta-da-da. Ça me fait penser que j'ai pas très envie de devenir pompier parce que déjà j'ai pas beaucoup de... Je suis pas très efficace et... Puis la vue du sang, ça me fait un peu mal au ventre.
D'accord. Alors les pompiers pour moi, ce sont des personnes sur qui on peut compter, qui nous secourent. Donc ce sont les secouristes dans un premier temps. Et ça me fait aussi bien sûr penser aux feux et aux incendies. Voilà, il y a la grande échelle.
Alors, ça me fait penser au terme volontaire.
Merci.
Dans notre studio, Ilaïda et Rémi ont reçu Monsieur Dalstagne, formateur de jeunes sapeurs-pompiers.
Bonjour Monsieur Dalstagne, vous êtes sapeur-pompier. Vous êtes aussi prof de technologie à la cité scolaire. Pouvez-vous nous parler de votre métier ?
De mon métier ? Mon métier, pour moi, c'est enseignant. Mm-hmm. Je suis prof, effectivement, de technologie sur la cité scolaire, mm-hmm. bien que mon poste officiel soit sur le collège de Buis-les-Baronnies. Mm-hmm. Et je suis ce qu'on appelle un engagement. Je suis engagé comme sapeur-pompier volontaire depuis 18 ans.
Sapeur-pompier, est-ce du bénévolat ou bien un métier ?
Alors, quand on dit sapeur-pompier volontaire, c'est-à-dire que c'est une activité volontaire, ce n'est pas tout à fait du bénévolat. C'est ce qu'on appelle plutôt un engagement civique et citoyen au service de la population, au service des autres. C'est ce qu'on appelle l'altruisme. Ce n'est pas un métier quand on est volontaire. C'est une activité, mais on touche une indemnité quand on est en intervention, mais qui n'est pas l'équivalent d'un salaire.
D'où vient cette idée de créer l'option jeune sapeur-pompier ?
Alors l'option jeune sapeur-pompier, c'est une idée qui est venue sur la cité scolaire du Diois. Comme il y a la spécialité biqualifiante qu'on appelle sport nature ou art du cirque, et c'était un peu ce que j'appelle un projet de territoire.
Qu'est-ce qu'apprennent les élèves ?
Ils préparent ce qu'on appelle le brevet de jeune sapeur-pompier, c'est-à-dire qu'ils apprennent à manipuler le matériel pompier, les manœuvres qui vont avec, de façon à pouvoir être en fin du cursus brevet de jeune sapeur-pompier, capable de signer un engagement de sapeur-pompier volontaire, voire plus tard, s'il le souhaite, passer le concours de sapeur-pompier professionnel, mais surtout, dès qu'ils auront le brevet, pouvoir intégrer une caserne. Et il ne leur restera que quelques petits aménagements et petits stages pour pouvoir devenir sapeur-pompier volontaire.
Avez-vous du matériel spécifique pour ces élèves ?
Le matériel spécifique, comme vous avez pu le voir, c'est carrément le matériel qui sont dans les centres de secours, comme celui de Die, puisque vous me voyez régulièrement arriver à 13h30, soit avec une ambulance. Donc c'est une ambulance, un VSAV comme on l'appelle, qui est le matériel qui sert en intervention, ou comme vous l'avez vu hier, un camion feu de forêt.
Est-ce que vous savez si certains élèves souhaiteraient persévérer dans cette voie ?
Ce que je sais actuellement, c'est que ceux qui sont rentrés pour cette première promo et qui sortiront au printemps sont déjà en contact avec les centres de secours du Diois de façon à pouvoir envisager de signer un engagement, puisqu'ils auront 16 ans
quand ils passeront le brevet de jeune sapeur-pompier et qui peuvent donc signer un engagement de sapeur-pompier volontaire. Alors là, on va faire carrément un cas concret. Comment on aborde une victime et quels sont les gestes de premier secours effectués avec le matériel de l'ambulance.
Ok.
Alors là, j'ai mis en place, il va y avoir deux élèves qui vont jouer le rôle d'équipier, les mettre en situation de savoir ce qu'ils doivent faire face à cette situation d'une victime inconsciente.
Donc voilà une victime, tu t'allonges, on a mis un bras exprès. Alors tu t'allonges les pieds plus par là. On aborde une victime. Qu'est-ce qu'on fait en premier?
On doit la sauver.
D'accord, mais il faut savoir une chose, c'est que les trois classifications d'urgence absolue, c'est une victime qui est inconsciente, c'est une victime qui a une hémorragie, c'est-à-dire on voit du sang de partout, ou c'est une victime qui est en arrêt cardiaque. Madame, bonjour, c'est les pompiers. Vous m'entendez? Madame, si vous m'entendez, serrez-moi la main. Clignez des yeux. Réagis pas. On regarde après si elle respire.
Bon,
elle respire, mais elle est inconsciente. Donc, quel est le geste dans ce cas-là qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'une PLS, position latérale de sécurité. Première étape, on choisit le côté où on va la retourner et on se met du côté où on va la retourner. Délicatement, on met ce bras voilà, à l'équerre.
Ok.
Ensuite, on prend le deuxième bras, toujours délicatement. Je prends la main, je la mets paume contre paume. Je mets le bras sur l'oreille, voilà, et je ne touche plus. Troisième étape, vous voyez le genou? Je soulève, hop, et je me prépare à la faire tourner. Je me mets en position, et regardez bien. Je la fais tourner. Voilà. Vous voyez la main? Je lui laisse la main sur l'oreille. Je la tiens. Je mets bien cette jambe à l'équerre. Comme ça, là, si vous regardez bien, elle est bloquée. Et je surveille la bouche de façon à ce qu'elle puisse vomir. Comme ça. Si jamais elle veut vomir, ça sort et ça ne bloque pas la respiration. Voilà la première chose à faire. Une personne inconsciente, il faut la mettre en position latérale de sécurité.
Le dico de Nico, tu veux? Le dico de Nico.
Connaître un mot?
Le dico de Nico.
Écoute.
Le dico de Nico.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expression « sapeur-pompier ». Le mot « sapeur » vient du verbe « saper ».« Saper » signifie détruire un bâtiment, pas la base. On utilise ce mot car au Moyen-Âge, il n'y avait pas d'eau dans les rues et donc pas de bornes incendie à proximité. Il fallait saper, détruire les bâtiments autour du feu pour le contenir et pouvoir ensuite éteindre. Le terme « pompier » vient du mot « pompe », appareil pour aspirer et projeter l'eau. Il apparaît au XVIIIe siècle lorsque des pompes sont mises en service. Il faut alors des gens formés pour les utiliser et les entretenir. Ce sont désormais les pompiers. Aujourd'hui, on utilise l'expression sapeur-pompier ou sapeur-pompière pour désigner le corps du métier, dont la vocation principale est de combattre le feu et de porter secours.
Merci Nicolas pour cette chronique. À présent, écoutons deux jeunes sapeurs-pompiers au micro de Clara et Camélia.
Bonjour, comment vous vous appelez ?
Moi, je m'appelle Emma.
Axel.
On voulait vous poser quelques questions au sujet de votre option JSP.
Pourquoi avez-vous choisi de devenir jeune sapeur-pompier ?
J'aurais bien voulu faire pompier volontaire plus tard.
Et ça vous rajoute combien d'heures sur votre emploi du temps ?
C'est 4 heures le lundi après-midi.
Quelle est la partie que vous préférez dans cette option ?
C'est surtout le secourisme et le sport.
Si vous deviez conseiller cette option aux nouveaux élèves du collège, que leur diriez-vous ?
Je pense qu'il faut vraiment être bien motivé et surtout être prêt à faire les heures de sport parce que c'est le plus compliqué dans la formation.
Si on veut partir en troisième et qu'on a commencé en cinquième, on peut partir ou on doit rester juste en compte en première?
Non, en fait, comme du coup, ça commence en quatrième et du coup, ça dure jusqu'en seconde. Et si par exemple en troisième, il faut partir dans un autre collège, comme on n'a pas le niveau par exemple en seconde générale, du coup, on veut partir à un bac pro. Soit on veut arrêter définitivement, soit on peut se faire transférer sur la formation à Cré, où du coup, on passerait notre dernière année à Cré, directement à la caserne.
Et vous nous avez parlé de sélection. C'est quand et comment?
Alors, les sélections, ça dépend. Nous, on l'a fait les sélections en cinquième. Dans un premier temps, on fait une lettre de motivation qu'on envoie aux personnes qui proposent cette formation. Et après, on a un entretien. Donc, nous, c'était avec notre professeur, Monsieur Dahlstein, et deux autres professeurs. Et ils vous posent des questions sur votre motivation et sur ce que vous voudrez faire plus tard. Voilà.
Alors, on aimerait bien savoir si vous aviez une anecdote à nous raconter qui se serait passée pendant un cours.
Oui, un lundi après-midi, pendant qu'on était en secourisme, il y a une personne qui avait fait un malaise dans une cour. Du coup, on a pu voir et comment pratiquer avec M. Dahlstein.
Et vous avez appris à vous servir de quel matériel?
Dans la technique, on a appris à gérer les tuyaux, les dévidoirs, tous les trucs comme ça. Et dans le secourisme, c'est l'oxymètre pour prendre la tension, pour plein de choses comme ça, ou des ATL.
Si vous vous projetez plus tard, quel métier vous aimeriez faire?
Moi, je ne m'engagerai pas sur le métier de pompier professionnel, plutôt pompier volontaire. Je voudrais faire un autre métier à côté.
Moi, c'est pareil, ça sera plus pompier volontaire que professionnel.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Moi, je dis, si vous êtes motivé, vous engagez, c'est bien aussi.
Venez, quand d'abord il y a 12 places, donc vous aurez une grande chance d'esprit. Soyez motivé et venez participer aux sélections.
D'accord, merci encore d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Et bonne continuation.
Merci.
Pompier, ça dit en italien.
Pompiere.
En anglais.
Firefighter.
En allemand.
Feuerwehrmann.
En espagnol.
Bombero.
Merci à Rémi, Teddy, Nicolas, Clara, Ilaïda, Wassim, Mélina.
Au micro,
Mathis
et Camélia. C'était la radio des Ulysses. Un grand merci aussi à Agnès, professeure des Ulysses, Mathilde, notre AESH,
ainsi qu'à François de la radio Sans Ferriol, à Karen de Désert Numérique, Sarah Vidéaste,
et à toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions.